Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est en fait le tout dernier message de la série qu'on a commencé en septembre sur les habitudes de la grâce. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de tout ce qu'on a parlé. On a parlé de l'adoration collective, le fait d'être ensemble tous les dimanches. On a parlé de la lecture de la parole. On a parlé de la prière. Ensuite, on a parlé du sabbat. Et en fait, on a aussi continué sur le jeûne, le jeûne. Et donc aujourd'hui, ça va être en contrepartie, on va dire, du jeûne. Jésus étant le Seigneur de la fête. Et le mois dernier, pardon, on a parlé du service. Et donc voilà, on arrive à en conclusion d'une série que j'espère aura été édifiante, aura été utile, et que ça vous aura aussi challenger dans certains aspects de ces désolé, je suis fatigué, de ces domaines. Voilà, et donc on arrive à cette fameuse histoire de Cana. Il s'agit du tout premier signe miraculeux opéré par Jésus. Et même si on connaît cette histoire, même si elle nous est familière, si on a grandi dans l'Église, c'est une histoire qui est étrange, si on lit bien en détail ce miracle. Et donc, j'aimerais qu'on prenne vraiment cette prochaine demi-heure de regarder et comprendre le sens et la signification de ce premier miracle, de ce que fait Jésus ici. On a affaire à Jésus. Jésus, c'est la personne la plus influente qui ait posé pied sur terre. Et en fait, j'ai envie de dire, comme toute personne influente, il est toujours primordial de poser les fondements et les bases de sa personne lorsque l'on intervient pour la première fois publiquement. Que ce soit le premier discours d'un nouveau président élu, que ce soit la première finale d'un athlète, ou que ce soit le premier album d'un artiste, en fait, on dévoile réellement qui on est lors de notre première intervention publique. Alors pour Jésus, son premier signe miraculeux à Cana révèle sa personne et aussi sa mission sur terre. Et en fait, ici, ce qui se passe, c'est qu'il y a une déclaration divine de qui il est. Et on lit aussi au verset 11 que c'est ici que Jésus manifeste sa gloire, et que ses disciples crurent en lui. C'est là que tout se passe. Et c'est ici, à Cana, que Jésus vraiment plante le décor de tout ce qui va s'ensuivre. Et si on regarde vraiment de plus près sur ce premier miracle à Cana, parfois on se demande en quoi c'est significatif dans ce que Jésus fait ici. Après tout, en fait, ici, Jésus ne permet simplement, entre guillemets, qu'une fête se prolonge. C'est tout ce qu'il fait, à vrai dire. C'est ce qu'il fait en apparence. Mais si, justement, en étudiant un peu plus ce passage-là, on va voir qu'il fait bien plus que prolonger une fête. Et donc, dans les deux premières versets, pardon, on nous explique, donc, voilà, dans les deux premiers versets, on nous explique qu'il y a des noces à Cana, en Galilée, et que Jésus, sa mère et ses disciples sont invités, ils sont conviés. Et sachez qu'à l'époque, le mariage était vraiment l'événement central dans la vie sociale d'un village au Moyen-Orient. Et les festivités à l'époque se déroulaient sur une période de 7 jours. Et l'un des éléments clés dans le bon déroulement des noces, d'un mariage, c'était évidemment le banquet. Et il fallait assez de nourriture, il fallait assez à boire pour que les convives puissent faire la fête, s'amuser et célébrer le couple qui se mariait. Et donc, en fait, la responsabilité de l'organisation du mariage était assumée par la famille du marié. Et c'était donc à eux de pourvoir aux plats, au vin du banquet. Et ici, pour une raison qui nous est inconnue, le passage nous dit que le vin venait à manquer. Et donc cela aurait été une catastrophe pour le mariage. Nous, au XXIe siècle, lorsqu'on va à un mariage, à une soirée de mariage, et qu'il n'y a pas, enfin, ouais, lorsqu'il n'y a plus d'alcool ou lorsqu'il n'y a pas assez de nourriture pour les convives, je veux dire, ce n'est pas forcément la fin du monde, mais ce serait très embarrassant, on est d'accord. Ce serait vraiment embarrassant. Au temps de Jésus, sachez que, en fait, la culture dans laquelle eux vivaient, c'était une culture qui était basée sur l'honneur et la honte. Et donc, ça veut dire qu'il y avait une grande attente et une grande pression à ce que la famille du marié qui organisait le mariage fasse en sorte qu'il y ait assez à manger et qu'il y ait assez à boire. Et parce que sinon, cela aurait amené une grande honte au nom et à la réputation de la famille. Et c'est là que Marie intervient, la mère de Jésus. Lisons versets 3 à 10. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres et ils les remplirent jusqu'à bord. » Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. Et lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela le marié et lui dit, « Tout homme sert d'abord le vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré, mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Est-ce que vous vous êtes déjà demandé, en lisant cette histoire, ce miracle, pourquoi Jésus accomplit son premier miracle lors d'un mariage, lors d'une fête de mariage ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question ? Pourquoi est-ce qu'il se dévoile publiquement en changeant de l'eau en vin ? Pourquoi il n'a pas commencé son tout premier miracle en guérissant des malades, en recouvrant la vue à des aveugles ou en ressuscitant un mort? Pourquoi il ne commence pas son ministère comme ça? Parce qu'en fait, moi je pense que Jésus, enfin c'est sûr d'ailleurs, Jésus il est bien plus que ce que nous on croit, ou il est bien plus que, en fait, on a trop tendance à mettre Jésus dans des catégories, dans des cases dans lesquelles nous, en tant qu'être humain, on l'enferme. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Versets 8 et 9. Au verset 8 et 9, on nous parle de l'organisateur du repas. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en regardant ce mot, organisateur de repas, lorsque on regarde le mot grec, littéralement, ça veut dire le seigneur de la fête. C'est ce qui est écrit, c'est ce que ça veut dire en grec. Ça veut dire le seigneur de la fête. De nos jours, on n'a pas vraiment d'équivalent, mais on pourrait l'assimiler, je ne sais pas, un wedding planner ou un traiteur de mariage. Et donc, le travail de cet organisateur de repas, de ce seigneur du repas, c'était de faire en sorte de s'occuper des choses, de s'occuper de la logistique, de faire en sorte que tout se passe bien, qu'ils puissent suivre les instructions des mariés, que les convives puissent s'amuser. Bref, en fait, leur job, c'était vraiment faire en sorte que la fête du mariage soit une fête, tout simplement. Et en fait, l'un des points de ce miracle, c'est le suivant. Qui est-ce qui s'est organisé une fête ? Qui est-ce qui pourvoit au banquet ? Qui est l'ultime seigneur de la fête ? Et le point de ce passage, c'est de dire que c'est Jésus. C'est Jésus qui est l'ultime seigneur de la fête. Parce que Jésus, en transformant ces centaines de litres d'eau en vin, Jésus veut déclarer qu'il est le seigneur de la fête. Très souvent dans le milieu évangélique, on aime bien accentuer sur le fait que Jésus demande à ses disciples, oui, le renoncement de soi, que chacun porte sa croix, d'être humble, ce qui est une vérité, sachant que voilà, la persécution nous attend. Mais Jésus affirme également que notre vie en tant que chrétien doit être marquée par la joie, par des célébrations, par des festivités. Et c'est ici qu'on le voit. Trop de gens pensent que la vie chrétienne, ben, c'est l'austérité, c'est les règles, c'est ce genre de choses, alors que c'est aussi tout, c'est surtout le contraire, la vie de chrétien. Et la vie de chrétien, c'est une fête à laquelle chacun d'entre nous, on est convié autour d'un festin. On est tous conviés à un festin. Dans Ésaïe 25, c'est écrit la chose suivante. Sur cette montagne, l'Éternel, le maître de l'univers, prépare pour tous les peuples un festin de plats succulents, un festin de bon vin, de plats succulents, plein de moelle et de bon vin clarifié. Sur cette montagne, il détruira le voile qui est tendu sur tous les peuples, la couverture qui est déployée sur toutes les nations. Il engloutira la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de la terre la honte de son peuple. Oui, l'Éternel l'a décrété. C'est ce qui va se passer. C'est ce que le Seigneur prépare. C'est une prophétie d'Ésaïe ici. Manger, boire, faire la fête, c'est pas juste un moyen de se divertir ou de sociabiliser avec les autres, mais c'est aussi un moyen de grâce. C'est une habitude de la grâce qui nous permet vraiment d'expérimenter sa bonté, sa générosité, son hospitalité. C'est ça le sens de manger un repas, de festoyer, d'être avec ses amis autour de la table. On est d'accord que lorsque on se réunit autour d'une table avec ses frères ou ses sœurs, avec ses amis, avec ses collègues, ben, y a quelque chose qui se crée. Il y a cette bonne ambiance, il y a cette convivialité. Et moi, personnellement, par exemple, hier, j'ai fait un brunch, j'ai invité mon pasteur, sa femme et un couple d'amis. Et c'était une profonde bénédiction. C'était un moyen où on a vraiment pu partager la communion fraternelle. Et je suis sûr que c'est ni vous qui allez me contredire et ni toi, Eric, avec tes stories Instagram. Parce que voilà, le Seigneur veut que l'on profite des bonnes choses qu'il nous donne. Et en fait, se réunir autour de la table, c'est une habitude spirituelle qui est très puissante. Ce n'est pas juste manger, ce n'est pas juste sociabiliser. Se réunir autour de la table, c'est partager un repas, oui, certes, mais c'est aussi être hospitalier. C'est inviter des gens chez soi, c'est être dans la présence des uns et des autres. Et c'est dans le même temps prendre des nouvelles des uns et des autres, c'est raconter des histoires, c'est dire ce que le Seigneur fait de bon dans notre vie. C'est partager, et en fait, c'est vraiment partager ces moments-là. C'est une immense grâce que Dieu nous met à disposition dans notre vie en tant que chrétien. Et est-ce que... Comment est-ce que je peux dire ça? Bon, moi, je vais à l'église le dimanche matin dans ma propre église, mais dans la majorité du temps, les Parisiens, le samedi matin, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils sont au lit. Ils sont au lit, ils font la grasse mat. Et en fait, pourquoi? Ben, parce que, bon, en temps habituel, hors confinement, la majorité des Parisiens, ils vont faire la fête le samedi soir, ils vont dans les bars, ils vont dans les restos, ils vont en boîte. Pour eux, c'est leur façon de se divertir, de s'amuser et de passer du bon temps. Et le christianisme, Jésus, c'est un sens de la fête qui est bien plus poussé et bien plus profond que ce que le monde nous offre. Pourquoi? Parce que Jésus est l'ultime organisateur de la fête, c'est l'ultime seigneur de la fête, c'est l'ultime personne qui puisse nous offrir de bonnes choses. C'est en lui qu'on peut avoir cette profonde joie, cette joie qui est éternelle. C'est en lui que l'on peut festoyer. C'est en lui, c'est lui qui pourvoit à ce que l'on puisse célébrer dans l'éternité. Et c'est d'autant plus riche que lorsque l'on fait ces choses-là, par exemple, en l'occurrence, dans Jean 2, c'est pour un événement aussi marquant qu'un mariage. Et ce n'est pas un hasard pour lequel Jésus le fait dans ce contexte-là, dans Jean 2. Verset 3. Jean 2, verset 3. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin, Jésus. Marie savait qu'on allait se diriger vers un désastre, et donc elle demande à son fils d'intervenir. Et donc, même si Jésus n'avait toujours pas encore commencé son ministère publiquement, sa mère, Marie, sait qui Jésus est. Je ne sais pas si pendant son enfance, il a fait des miracles à la maison, je ne sais rien, mais elle savait qu'il n'était pas un enfant comme les autres. Et elle se souvient de ce que l'ange Gabriel lui a dit lorsqu'elle est devenue enceinte. Ok ? Marie savait que Jésus était spécial. Et au verset 4, Jésus lui répondit, « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » Ici, c'est le verset clé de tout le passage. « Que me veux-tu, femme ? Est-ce que vous parlerez comme ça à votre mère ?» J'en doute. Et pourtant, littéralement, c'est ce que Jésus dit ici dans le texte. « Que me veux-tu, femme ?» Jésus, il est vraiment brusque, il est assez sec dans sa réponse, parce que, en fait, Jésus semble tourmenté du fait que son heure ne soit pas encore arrivée. Pourquoi est-ce que ce serait le cas? Pourquoi est-ce que Jésus est tourmenté ici? Quand vous étiez jeune et célibataire avant, vous êtes peut-être plus célibataire, mais vous êtes toujours aussi jeune, mais quand on était jeune ou quand on est célibataire, ou si c'est encore le cas, qu'est-ce qu'on a tendance à faire lorsqu'on assiste à un mariage? Honnêtement, je pense que beaucoup d'entre nous, lorsqu'on était célibataire ou lorsqu'on est célibataire et que l'on assiste à un mariage, on pense tous à son propre mariage. On est d'accord ou pas? Contredisez-moi si j'ai tort. Mais en tout cas, personnellement, ça m'est arrivé très souvent de penser à mon propre mariage lorsque je vais à un mariage d'un ami ou d'une amie. On se demande avec qui je vais me marier, quand est-ce que ça va se passer. Et donc, ça nous arrive de nous perdre dans nos propres pensées lorsqu'on assiste à une cérémonie et donc on projette ce qui se passe dans notre tête. Et même si moi, je n'étais pas dans la tête de Jésus, dans Jean 2, je suppose très fortement que Jésus, ici, pensait à son propre mariage. Pourquoi? Parce que le sens et la signification du sien, du mariage de Jésus, ont une portée et un impact qui est beaucoup plus profond et plus aigu que le nôtre. Et c'est la raison pourquoi Jésus était tourmenté ici lorsqu'il dit « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Je vais m'expliquer. La Bible nous explique que Dieu ne veut pas juste interagir avec nous, avec son peuple, avec son Église, comme un roi le fait avec ses sujets, ou comme un brebis un berger avec ses brebis, ou un père avec ses enfants. La Bible nous explique que Dieu veut avoir une relation forte, intense et intime, et c'est pour ça qu'il utilise l'image du mariage, la relation entre un époux et une épouse. Et Dieu s'apparente à un marié et son peuple à une mariée. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs passages dans lesquels justement il y a cette illustration. Et Jésus lui-même s'approprie cette image, par exemple quand les disciples de Jean-Baptiste dans les évangiles lui demandent pourquoi est-ce que ses disciples ne jeûnent pas. Et la réponse qu'il dit, c'est que les invités à la noce peuvent-ils être tristes lorsque le marié est parmi eux? Ou même dans Jean 3, après cet épisode, les gens viennent voir Jean-Baptiste et lui font remarquer que Jésus commence à devenir beaucoup plus populaire que lui. Et Jean lui dit, celui qui a la mariée, c'est le marié. Mais l'ami du marié se tient là et qui l'entend. Éprouve une grande joie à cause de la voix du marié. Et donc, lorsque Jésus assiste à ce mariage, il pense à son propre mariage, qui d'ailleurs nous est décrit par l'apôtre Jean, une fois de plus, dans Apocalypse. Lisez avec moi Apocalypse 21. Je vis descendre du ciel, de près de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. Dans Apocalypse 19, une description de ce qui va se passer. Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie, rendons-lui gloire, car voici le venu des noces de l'agneau et son épouse s'est préparée. Contrairement à nous, contrairement à moi, à nous autres qui sommes célibataires, on ne sait pas quand est-ce que l'on va se marier ou avec qui on va se marier, si Dieu le veut, bien sûr. Mais Jésus, lui, il sait quand est-ce qu'il va se marier. Il sait avec qui cela va se passer. Alors pourquoi, avec cette joyeuse perspective, il est troublé? Pourquoi il est tourmenté ici? Une fois de plus, verset 4. Jésus lui répondit : Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. Pourquoi est-ce que, une fois de plus, Jésus est si dur envers Marie ici? En lisant ce passage, on aurait tendance à interpréter cette réponse de Jésus comme quoi son heure n'est pas encore venue pour accomplir un miracle et que, en fait, on a l'impression que sa mère lui force un peu la main pour accomplir un miracle. Et on sait plus tard que Jésus accomplit justement ce miracle qui change l'eau en vin. Donc, en fait, ce n'est pas forcément cette théorie-là. C'est pas comme nous, en fait. Moi, par exemple, quand je rentre chez mes parents, je vais rendre visite à mes parents. Ma mère, très souvent, elle me demande si est-ce que je veux manger quelque chose. Je lui dis, non, ça va, j'ai pas très faim. Et ça lui arrive très souvent de revenir une deuxième fois et lui demander, est-ce que tu veux manger? Est-ce que t'as faim? Je lui dis, non, j'ai toujours pas faim. Et après, quelques minutes plus tard, elle revient pour me demander une troisième fois, est-ce que t'as encore faim? Je lui dis non. Et après, elle revient, elle dit, est-ce que t'as faim? Au bout du compte, tu capitules. On est d'accord. Vous savez de quoi je parle, entre Chinois. Mais Jésus, ici, il n'est pas comme nous. Il ne capitule pas. Il capitule pas face à la pression de sa mère qui lui demande de changer l'eau en vin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ici, dans Jean 2, c'était bien l'heure de Jésus de faire ce premier miracle. C'était son moment à lui. Parce qu'en fait, dans l'évangile selon Jean, à chaque fois que le terme « heure » est évoqué, est mentionné et utilisé, c'est en fait référence à l'heure de sa mort. Si Jésus faisait référence à sa crucifixion, pourquoi est-ce qu'il l'évoque ici alors que ça n'a rien à voir? Marie lui demande simplement de pourvoir à du vin à un mariage. Quel est le rapport? Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, Jésus ici, en assistant à ce mariage, devait penser à son propre mariage. Et c'est ce qui le tourmente ici, c'est son propre mariage. Pourquoi ? Parce que Jésus, afin de pouvoir accueillir sa mariée, comme on l'a lu dans Apocalypse, Jésus devait d'abord mourir. Même s'il savait avec qui il allait se marier, quand est-ce qu'il allait le faire, il devait avant tout passer par les atroces souffrances de la crucifixion. Il le savait, ça. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire qu'il passe par les souffrances de la crucifixion? Lisez versets 6 et 7 avec moi. Or, là, il y avait 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres et les remplir jusqu'à bord. Pour rappel, les Juifs, lorsqu'ils allaient au temple, ils devaient se purifier en se lavant comme un symbole qu'il faut être pur lorsque l'on se présente devant Dieu. Et cela signifie pour nous, pécheurs, que nous, on est moralement impurs. Et nous devons être purifiés pour pouvoir être dans la présence de Dieu. Et la seule possibilité que l'on puisse se présenter pur devant Dieu, c'est que Jésus doit boire de la coupe de la colère de Dieu. Le sang que Jésus verse à la croix est représenté par la nouvelle coupe de vin qui scelle la nouvelle alliance lorsqu'il institue la scène. L'alliance de celle d'un amour entre un mari et sa mariée. Et c'est le sang de Jésus qui nous purifie qui nous lave spirituellement de nos péchés. C'est son sang qui nous permet de nous approcher de Dieu. C'est son sang qui scelle l'alliance entre un époux et une épouse. C'est son sang qui pourvoit au vin pour célébrer les noces d'un mariage. Mais c'est ça l'évangile, c'est ça le christianisme. C'est un acte d'amour qui surpasse tout autre sacrifice qui puisse être fait. Pourquoi faire ? Ben pour qu'on puisse, à un moment ou à un autre, au moment donné, pour que l'on puisse être dans la joie, pouvoir faire la fête, être avec son bien-aimé. Vous savez, aux États-Unis, on dit qu'il faut mettre 3 mois de salaire pour l'achat d'une bague de fiançailles. C'est entre guillemets la tradition. Et c'est énorme 3 mois de salaire. Et même si on touche que le SMIC, je veux dire, ça fait au moins 3000 euros dans une pierre. C'est énorme. Mais Jésus, lui, il en a payé de sa propre vie, au prix fort. De sa propre vie, il a payé le droit d'être avec son épouse. Vous vous souvenez, lorsque Dieu délivre Israël, son peuple, de l'esclavage en Égypte, est-ce que vous vous souvenez du tout premier fléau que Moïse accomplit ? Le tout premier fléau que Moïse accomplit, c'est de changer l'eau du Nil en sang, comme une malédiction qui apporte la mort aux Égyptiens. Mais là, ici, lorsque Jésus change l'eau en vin, il renverse cette malédiction et la transforme une bénédiction qui nous donne cette vie éternelle et abondante. Pourquoi ? Parce que c'est par le sang de Jésus qu'on a la vie. Quel amour, quel sacrifice. Et donc, ça veut dire que, comme c'est écrit on l'a lu tout à l'heure dans Apocalypse, il y aura une fête qui sera énorme, il y aura des grandes festivités qui seront marqué par une ivresse de joie, de rire, de bonheur. C'est ce qui va se passer. Mais sachez que cette célébration, elle commence dès maintenant, sur terre. Pourquoi ? Parce que le marié nous attend déjà. Le vin coule en abondance parce que le sang de Jésus a déjà été versé pour nous à la croix. Et donc, en tant que chrétien, on se doit de vivre dans cette réalité parce que la vie chrétienne, c'est vraiment une fête. C'est une fête. Versets 9 et 10. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui en avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela le marié et lui dit : « Tout homme sert d'abord le vin, le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Enivré, mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Ce miracle illustre également un aspect super important de l'évangile. Ici, c'est Jésus qui pourvoit au vin qui manquait. Et c'est le marié qui est félicité pour la qualité du vin et c'est lui qui obtient le crédit. Jésus a vécu une vie sans péché, qui a parfaitement obéi la loi. C'est lui qui a enduré les souffrances à la croix, c'est lui qui a versé son sang à la croix, et c'est nous qui obtenons le crédit, qui obtenons les félicitations. C'est Jésus qui fait tout le travail pour que nous, on puisse faire la fête, manger, boire, comme si de rien n'était. Vous savez, dans ce miracle de Cana, Jésus, lorsqu'il a pourvu à ce vin, lorsqu'il a réussi à changer ces centaines de litres d'eau en vin, il devait probablement boire ce vin amèrement, sachant ce qu'il attendait à la croix, dans cette ambiance qui était joyeuse pour que nous, on puisse vivre aujourd'hui avec cette joie, avec cette paix, dans ce monde qui est incertain, qui est sombre parfois, sachant que, voilà, on sait ce qui nous attend après notre vie terrestre. On se doit d'être dans la joie malgré les incertitudes, malgré les circonstances qui peuvent être terribles parfois, parce que Jésus a déjà fait ces choses-là pour nous. Chaque fois que l'on prend ce vin et ce pain, c'est un peu comme si, voilà, on prenait l'apéro avant la vraie fête. Et la raison pour laquelle moi j'ai inclus cette pratique de se réunir autour de la table comme étant une habitude de la grâce, c'est parce que notre style de vie en tant que disciple de Christ doit être marqué par ces valeurs de célébration, de festivité, de joie, de partage, de communion, de fraternité, d'hospitalité, de générosité. C'est des valeurs qui font partie intrinsèque de l'Évangile. Une fois de plus, on est invité à ce banquet, à ce mariage, à ces festivités. On n'a plus qu'à accepter ce carton d'invitation et de faire la fête ensemble. Voilà, priez avec moi. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci pour cette histoire de ce miracle à Cana. Merci pour le fait que tu aies changé cette eau en vin. Tu aies pourvu à ce mariage, Seigneur. Et c'est une illustration que tu pourvois à tout, que tu donnes les choses en abondance, que tu es généreux. Et, mais cette générosité, on en a coûté un prix fort, celui de ta vie, Seigneur. Et c'est pour ça que, sachant cela, on veut être reconnaissant, on veut vivre dans cette joie, parce que sans cela, on ne pourra pas faire ces choses-là. On se doit, en tant que chrétien, en tant que disciple, de pouvoir vivre dans cette joie, parce que sinon, tu te serais sacrifié pour rien, Seigneur. Et c'est pour ça que je te demande que tu puisses vraiment nous aider, à chacun d'entre nous, à vivre avec cette ferveur, avec cette joie, avec cette joie de vivre, vraiment, comme on le dit ici en France, cette volonté de partager les choses les uns avec les autres, surtout entre frères et sœurs, et surtout aussi avec les gens qui ne te connaissent pas, pour qu'ils puissent voir qu'il y a quelque chose de bien plus différent en toi, que tu offres des choses bien plus profondes et beaucoup plus valeureuses que le monde nous offre, Seigneur. Et je te prie que tu puisses, en retour, être honoré, être glorifié, Seigneur, pour ce que tu accomplis pour nous. Et je te demande toutes ces choses au nom de Christ. Amen.